Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Bonjour tout le monde et bienvenue à ce sixième et dernier épisode d'Au cœur de l'Euro. Ici votre hôte Vincent Gianjopi, en direct cette fois-ci de Rome. Hier soir, après un mois de compétition et 51 matchs, l'Euro 2024 a finalement pris fin. On a un nouveau champion et celui-ci a été décidé le soir du 14 juillet à Berlin. On va donc revenir en détail sur ce match et on va terminer cette émission avec notre propre 11 de la compétition. C'est parti! Donc, Espagne contre Angleterre. Un duel entre probablement l'équipe la plus convaincante de tout l'Euro jusqu'à date et une autre qui avait eu plusieurs performances mitigées, mais qui semblait monter tranquillement en puissance. On se souvient du parcours des deux équipes. L'Espagne n'avait toujours pas perdu un match de la compétition, ayant battu sur son chemin entre autres la Croatie, l'Italie, l'Allemagne et la France, alors que l'Angleterre avait connu des résultats assez décevants face au Danemark et la Slovénie, avant d'avoir extrêmement de difficultés à passer à travers la Slovaquie, la Suisse et les Pays-Bas pour se rendre en finale. L'Espagne s'alignait dans son 4-3-3 habituel, qu'on a vu tout le long de la compétition. Elle pouvait d'ailleurs compter sur les retours de Dani Carvajal au poste de latéral droit, ainsi que de Robin Lenormand comme défenseur central, eux qui avaient tous deux manqué la demi-finale pour cause de suspension. Évidemment, le jeune Pedri, qui faisait partie du milieu de terrain espagnol au début du tournoi, était toujours blessé et laissait donc sa place à Dani Olmo, qui de toute façon donnait pleine satisfaction depuis ses entrées en jeu. Sur les ailes, on retrouvait naturellement les deux petits jeunes, Nico Williams et Lamine Yamal. Chez l'Angleterre, même 11 qu'en demi-finale, à l'exception du latéral gauche Luke Shaw qui prenait la place de Kieran Trippier. Milieu composé de Declan Rice et du jeune Kobbie Mainoo et une triplette offensive à laquelle on s'en vient habitué avec Phil Foden, Jude Bellingham et Harry Kane. En toute sincérité, il n'y a pas eu grand-chose à signaler lors de la première mi-temps. On a assisté à du jeu plutôt passif de la part des Anglais alors que l'Espagne gardait la possession du ballon. Pas mal ce à quoi on aurait pu s'attendre de ce match. Par contre, malgré le très peu de possession de l'Angleterre, elle a été capable de bien la rentabiliser et de se créer quelques demi-chances, mais rien de très inquiétant. L'Angleterre a probablement dû revenir au vestiaire un peu plus satisfait que l'Espagne, mais c'est en deuxième mi-temps que les choses vont vraiment se corser. D'abord, le milieu de terrain espagnol Rodri a dû laisser sa place au Basque Martin Zubimendi en raison d'une blessure, ce qui aurait pu être un gros coup pour l'Espagne compte tenu du rôle essentiel que Rodri occupe dans n'importe quelle équipe pour laquelle il joue. Il est possiblement le meilleur joueur au monde à l'heure actuelle et l'un des plus influents aussi. Il allait donc être intéressant de voir comment l'Espagne allait se débrouiller sans lui. Mais après une minute de jeu seulement, les deux jeunes ailiers espagnols vont combiner. Lamine Yamal, de son aile droite, va couper vers le centre et trouver son partenaire Nico Williams, seul à gauche. D'un tir croisé à terre, l'Espagne ouvre la marque et fait 1-0 dans cette finale. L'Angleterre va grandement sortir de sa coquille après ce but, ce qui va laisser leur défense extrêmement vulnérable à des contre-attaques. Et même si l'Espagne ne sera pas en mesure de doubler son avance, elle va quand même donner la frousse plus qu'une fois aux Anglais. À la 60e minute de jeu et après un match assez désastreux, Harry Kane va laisser sa place au héros de la demi-finale, Ollie Watkins. Quelques minutes plus tard, Kobbie Mainoo va aussi être remplacé par Cole Palmer. Puis, à la 73e minute, Bukayo Saka va effectuer un fabuleux boulot sur l'aile droite avant de trouver Bellingham dans la surface adverse. Dos au but, il va remettre en retrait à Palmer qui va décocher une magnifique frappe de l'extérieur de la surface. Le tir va prendre une petite déviation sur Zubimendi, mais va ultimement battre le gardien espagnol Unai Simon et ça va faire 1-1. Et à ce moment-là, je me disais que ma prédiction du dernier épisode allait vraiment arriver. Moi, je disais que l'Angleterre allait gagner 2-1 après avoir été menée au score. Mais par contre, on peut bien dire que je m'étais trompé. À la moitié de la deuxième mi-temps, l'attaquant et capitaine de l'Espagne, Alvaro Morata, va laisser sa place à un autre joueur basque, Mikel Oyarzabal. Un changement que je trouvais très peu inspiré et qui semblait davantage être pour tuer le temps avec un attaquant de profondeur plutôt qu'un pivot comme Morata. Eh bien, ce même Oyarzabal va rapidement me faire avaler mes paroles. 86e minute de jeu, contre-attaque de l'Espagne, Dani Olmo va trouver Oyarzabal dans l'axe, qui va remettre sur le flanc gauche à Marc Cucurella. Ce dernier va envoyer un superbe centre à ras-de-terre dans la surface anglaise et qui sera là pour la récupérer, ben nul autre qu'Oyarzabal pour redonner l'avance à la Roja. Dans le temps additionnel, les Anglais vont avoir une dernière chance d'un corner, tête de Declan Rice repoussée par Unai Simon, retour de la tête de Mark Guéhi, mais bloqué sur la ligne par Dani Olmo. Et c'est ainsi que ce match et cet Euro 2024 vont se terminer. C'est une Espagne plus que méritante qui va remporter le 4e Euro de son histoire, elle qui dépasse donc l'Allemagne pour le plus de championnats européens remportés dans son histoire. Pour l'Angleterre, c'est une 2e finale d'Euro consécutive de perdu. Ça fera définitivement mal à l'orgueil, mais je ne suis pas trop inquiet pour cette équipe qui est bourrée de talent et qui est encore bien jeune. Une chose est sûre à mon humble avis, ce ne sera pas avec un Gareth Southgate derrière le banc que l'Angleterre va parvenir à remporter des tournois. Je crois sincèrement qu'un simple changement d'entraîneur ne pourrait être que bénéfique pour les trois Lions et pourrait leur permettre d'aller chercher ce fameux titre international qu'ils attendent depuis 1966. Pour conclure cet Euro 2024, on va se lancer dans l'exercice du meilleur 11 de la compétition. Bon, comme l'équipe pourrait techniquement être composée aux trois quarts de joueurs espagnols, j'ai décidé de m'imposer la contrainte d'un seul joueur par sélection. Sur ce, c'est parti. Alors dans les buts, tout d'abord, nous avons Giorgi Mamardashvili. En seulement 4 matchs joués lors de cette compétition, le gardien géorgien a effectué pas moins de 30 arrêts. Le deuxième gardien avec le plus d'arrêts dans la compétition, il en a 17. Il a été monstrueux sur sa ligne et est l'une des principales raisons pour lesquelles la Géorgie est parvenue à sortir de son groupe pour le premier tournoi international de son histoire. On se souvient que c'est un gardien qui n'a que 23 ans et qui évolue à Valence en Espagne. Eh bien, il ne faudrait pas être surpris de le voir partir pour un plus grand club cet été. Il est déjà l'un des meilleurs gardiens en Europe et on va sans doute le voir au sommet du foot européen pour encore une bonne décennie. Comme latéral gauche, on a le Turc Ferdi Kadıoğlu, joueur qui est peut-être passé un peu en dessous des radars, mais qui a été une pièce essentielle de cette Turquie qui n'était qu'à quelques minutes d'atteindre le carré d'as dans cette compétition. Le défenseur gauche, mais qui a la caractéristique peu commune d'être droitier, a été autant efficace à l'attaque qu'à la défense avec que sans ballon. Kadıoğlu, c'était les projections vers l'avant et les passes clés menant à des actions dangereuses, mais c'était aussi les tacles importants et les interceptions. Vraiment un joueur intéressant et qui prend la place du joueur turc dans ce 11. Notre premier central, c'est le français William Saliba. On l'avait mentionné il y a quelques épisodes, Saliba c'est l'un des meilleurs défenseurs de la Ligue anglaise, lui qui joue avec Arsenal, mais il n'avait jamais encore convaincu en équipe de France avant ce tournoi. Après celui-ci, il est pratiquement rendu le premier nom sur la feuille de match de Didier Deschamps. Avec une France qui a eu énormément de difficultés à l'attaque au cours de ce tournoi, celle-ci a plutôt brillé par sa solidité défensive et Saliba a été au cœur de tout ça. Sérénité à la relance, quelques blocs héroïques, mais surtout un vrai rock face aux meilleurs attaquants de la planète. Romelu Lukaku, invisible. Cristiano Ronaldo, invisible. Avant le match contre l'Espagne, la France n'avait encaissé aucun but en cours de jeu et Saliba y était pour une très très grande raison. À ses côtés, on retrouve le Portugais Pepe. Un peu comme la France, le Portugal a été une équipe qui a eu des difficultés à l'attaque, mais qui a été sauvée par sa défensive de fer, composée de Rubén Dias et surtout Pepe, qui est âgé maintenant de 41 ans. Au même titre que Saliba, il a été capable d'éteindre les meilleurs éléments adverses grâce à sa forte pression et son style très agressif. Il est aussi un leader vocal et d'expérience pour cette équipe, et ce qui paraissait à chaque fois qu'il était sur le jeu pour le Portugal. Pour le défenseur droit, je vais tricher un peu et mettre un autre central en la personne de l'Italien Riccardo Calafiori. C'est un jeune défenseur de 23 ans qui a explosé cette saison avec Bologne en Italie, ce qui lui a valu une place dans l'effectif de la Squadra Azzurra pour 7 euros. Extrêmement rapide, lourd dans les tacles, bonne anticipation et capable de galoper vers l'avant comme on l'a vu contre la Croatie lors de sa course et sa passe décisive pour le but égalisateur à la 95e minute de jeu. Au début du tournoi, Calafiori faisait davantage parler pour son style qui ressemblait énormément à celui des légendaires défenseurs italiens du début des années 2000 comme Paolo Maldini, Fabio Cannavaro et Alessandro Nesta. Par contre, on a rapidement vu que ses performances justifiaient les comparaisons. Il était malheureusement suspendu pour le match de huitième de finale contre la Suisse, mais avec un transfert imminent vers Arsenal, ce n'est certainement pas la dernière fois qu'on entend parler de Riccardo Calafiori. Pour débuter le milieu de terrain, il fallait mettre un Suisse et j'ai opté pour leur capitaine Granit Xhaka. On se souvient de la renaissance que Xhaka a vécue depuis la saison passée, où il était capitaine du Bayer Leverkusen qui a remporté la Ligue allemande sans perdre un seul match. Sa classe et sa forme se sont transmises au niveau de sa sélection. La Suisse a été l'une des équipes les plus séduisantes de cet Euro et c'est en bonne partie grâce à leur capitaine. Sa communication, son calme avec le ballon, sa capacité à dicter le tempo du jeu, ses passes qui brisent des lignes et qui alimentent l'attaque, il mérite définitivement sa place dans ce 11. À ses côtés, comme milieu plus reculé, on a le Slovaque Stanislav Lobotka. On se souvient, il y a quelques épisodes, on parlait de l'influence napolitaine sur cette belle sélection de la Slovaquie. Eh bien, Lobotka est le cœur battant de cette identité. Une autre équipe, comme la Suisse, qui a joué du très beau foot sur cet Euro, Lobotka était le milieu destructeur qui était fort dans les tacles, mais gracieux avec le ballon et qui accompagnait l'attaque avec ses projections. Et même si la Slovaquie se fait sortir en huitième de finale par l'Angleterre, à quelques secondes à peine des quarts de finale, on est en droit de se demander si elle serait sortie de son groupe tout court si Lobotka n'avait pas joué toutes les minutes possibles de son équipe sur cet Euro. Le joueur offensif le plus important et le plus dangereux de cette Allemagne, Jamal Musiala, comme milieu offensif, s'est révélé encore plus qu'il ne l'avait fait à la Coupe du Monde de 2022, puisqu'il a été capable de rajouter de la finition à son jeu. Il termine l'Euro avec 3 buts, faisant de lui l'un des co-meilleurs buteurs de ce tournoi. Il jouait un peu plus sur les ailes qu'au centre, mais il avait une position tellement intéressante et de par laquelle il rentrait souvent vers l'intérieur que je triche un peu en le mettant au centre. Sans aucun doute, l'un des meilleurs dribbleurs au monde, il a posé des problèmes à toutes les défenses qu'il a rencontrées. Et si l'Allemagne bat l'Espagne en quart de finale, il existe définitivement un monde où l'Allemagne remporte le tournoi et Musiala est nommé meilleur joueur de la compétition. Sur l'aile gauche, on retrouve Cody Gakpo. Ailier gauche des Pays-Bas, lui aussi termine comme Musiala le tournoi avec 3 buts, en plus de rajouter une passe décisive. Sans oublier le but vainqueur en quart de finale, qui est techniquement un but contre son camp, mais qui est causé par sa course au deuxième poteau. En tant que partisan de Liverpool, j'espère que ce tournoi aura démontré que Gakpo est bien meilleur sur l'aile qu'il ne l'est dans l'axe et que notre nouvel entraîneur Arne Slot va en prendre bonne note. Passons maintenant au buteur. Même si l'Angleterre sera en finale, on se souvient qu'on disait à peu près à chaque épisode que leur tournoi était très peu convaincant. Et seulement trouver un Anglais à mettre dans le 11 de la compétition, on se rend compte que c'est plus facile à dire qu'à faire. On constate aussi qu'il n'y a pas vraiment de vrai buteur qui s'est distingué dans l'ensemble de cet Euro. En temps normal, j'aurais mis le Georgien Georges Mikotadze, mais comme il est Georgien et que j'ai déjà Georgi Mamardashvili dans les buts, ben j'ai dû chercher ailleurs. On sait bien que le buteur de l'Angleterre, c'est Harry Kane, mais malgré ses 3 buts, il a vécu un tournoi extrêmement décevant. C'est pourquoi je vais encore une fois tricher un peu et mettre Jude Bellingham en tant que faux numéro 9. C'est le rôle auquel il a joué au Real Madrid cette saison, je vais donc dire que ça passe. Même si Bellingham n'a pas eu un tournoi époustouflant, il a tout de même été l'une des pièces maîtresses de cette équipe qui a bien failli se rendre jusqu'au bout. Il a marqué un but important face à la Serbie en phase de groupe et un encore plus important face à la Slovaquie en huitième de finale. 95e minute de jeu, à quelques secondes de l'élimination, et il sort une bicyclette de nulle part pour égaliser. En rajoutant à cela la passe décisive qu'il donne à Cole Palmer en finale de l'Euro pour créer l'égalité, je crois bien que Bellingham a les arguments pour faire partie de ce 11. Et finalement, sur l'aile droite pour l'Espagne, non, je n'ai pas pris Rodri, qui a été nommé meilleur joueur du tournoi, mais j'ai plutôt choisi celui qui a été nommé meilleur jeune joueur du tournoi, nul autre que Lamine Yamal. Probablement le joueur qu'on a le plus mentionné dans tous nos épisodes d'Au cœur de l'Euro, et pour de très bonnes raisons. On n'arrêtait pas de dire qu'il n'avait que 16 ans, et bien son anniversaire était le 13 juillet, ça veut donc dire qu'il a remporté l'Euro à 17 ans et un jour. Il a d'ailleurs battu le record du plus jeune joueur de l'histoire à participer à une finale de compétition internationale majeure. C'est un record qui datait de 1958 et qui était détenu par un jeune Brésilien du nom de Pelé. Je sais pas si ce nom-là vous dit quelque chose. Bref, Lamine Yamal a été nommé meilleur jeune joueur de l'Euro. Il a complété 4 passes décisives, faisant de lui le meilleur passeur du tournoi, dont 3 dans la phase à élimination directe, en plus d'ajouter un incroyable but en demi-finale contre la France. Après une saison où il a explosé au FC Barcelone, on était en droit de se demander s'il possédait la maturité pour jouer en équipe nationale, Mais vous pouvez être sûr qu'il a prouvé que oui, avec un tournoi qui entre instantanément dans l'histoire du foot. Il est le futur et le présent du FC Barcelone et de l'équipe nationale d'Espagne. Et c'est complètement fou de se dire qu'on va pouvoir être témoin de son talent sur un terrain de foot pour probablement les 20 prochaines années. C'est donc ainsi que se conclut ce sixième et dernier épisode d'Au cœur de l'Euro. Pour une dernière fois, j'espère que vous avez autant apprécié écouter cet épisode que j'ai aimé le produire. Le dernier mois aura été pas mal chargé en tout cas, entre le bénévolat et la production de l'émission. J'aurais certainement pas eu beaucoup de jours de repos. Couvrir 51 matchs en si peu de temps, ça aurait été quelque chose. Néanmoins, ce fut un réel privilège pour moi de participer à un tel événement que l'Euro à titre de bénévole et aussi de pouvoir couvrir cet événement pour CFAQ. Je tiens à remercier tout le monde qui a pris la peine d'écouter ne serait-ce qu'un seul épisode de l'émission. Ça signifie vraiment le monde pour moi. Et je tiens également à remercier CFAQ qui a accepté que je délaisse un peu mes fonctions de correspondant vers et hors le temps que je porte ce projet à terme. J'espère vraiment que ça aura valu la peine. Et c'est donc Vincent Genjopi qui, pour une dernière fois, vous dit au revoir et on se rejoint très bientôt. Ciao!